Radio Kapi. Les miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI et ceux du Front patriotique et intégrationniste du Congo FPIC appelés à cultiver la paix mais surtout à respecter leurs actes d'engagement. Cet appel est du gouverneur de province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Lubuya Kachama. Et puis, cette réaction des syndicats de la SCTP ex-ONATRA à la mesure du ministre du Commerce extérieur portant suppression ou rabattement de la redevance logistique terrestre. Pour ces syndicats, la mesure aura comme conséquence la faillite de la Société congolaise de transport et port et la Société nationale de chemin de fer. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dédé Moupassa. Il est député national élu du territoire de Diofa dans les Kwilu. Il déplore la détérioration des conditions de vie de la population de cette entité et fait un diagnostic de la situation socio-économique du milieu. Voilà tout pour les sommets. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, le gouverneur de province appelle les miliciens de la force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, et ceux du Front patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, à cultiver la paix, mais surtout à respecter les actes d'engagement signés par ces deux groupes armés pour la cessation des hostilités en vue de la pacification de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama l'a dit ce dimanche à Bunia, au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Kapi. C'était au lendemain des affrontements entre ces deux milices dans la localité de Toulabo, dans les territoires d'Irumu. Des affrontements qui auraient fait une vingtaine de morts dans les deux camps, selon plusieurs sources concordantes. À l'origine de ce clash, une dispute sur le contrôle d'une carrière minière. Pour le chef de l'exécutif provincial, ces deux milices ne doivent plus recourir aux armes. Elles doivent plutôt attendre le démarrage du processus des DDRCS, entendez, démobilisation, désarmement et réinsertion sociale et communautaire. Le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama est au micro de Martial Kizabiamungu.
Ils ont signé les actes d'engagement et donc ils doivent respecter. Quand on signe les actes d'engagement, cela ne signifie pas que c'est avec le gouvernement seulement. Non, les actes d'engagement, c'est ne plus utiliser la force et ne plus utiliser les armes. Ils doivent attendre le PDDRCS. Mais en attendant que ce processus arrive, chacun doit retourner à ses activités d'antan. Il y a des fermiers, il y a des cultivateurs, et donc ils doivent rentrer à ces activités-là. Il faut maintenant oublier cette histoire d'armes. Donc maintenant, c'est le travail. Il faudrait que tous ces jeunes-là, qui sont des jeunes forts physiquement, ils doivent rentrer dans les champs, ils doivent rentrer dans leurs fermes. Ça ne sert plus à rien d'aller provoquer tel ou tel autre groupe au motif que non, voilà, ils ont pris notre carré minier, ainsi de suite. Non, non, non. S'il y a des carrés miniers, alors qu'ils descendent dans ces carrés miniers là-bas, sans armes, que ce soit FRPI ou FPIC, ce sont des jeunes qui viennent de se tuer. C'est 18 morts. Et c'est des morts de plus. On ne peut plus accepter ça. Surtout en ce moment ici.
Nous devons être déçus de nos forces et résoudre tout ce qui nous entoure comme mal d'une manière pacifique. Message du poète Mapson Vitee à la population de Beni ce samedi lors d'une production artistique dans l'espace Virunga. Pour cet artiste, la population de Beni doit s'unir pour la paix et ne pas se laisser emporter par la violence. Le poète Mapson Vitee est au micro de Marc Marofimbo.
Je voudrais dire à la population de Beni qu'on est comme des phénix en fait. Même après notre mort, nous pouvons renaître de notre cendre. Je sais très bien que nous avons vécu beaucoup de choses horribles. N'acceptons pas que ces choses-là arrivent à nous dénaturer, arrivent à nous changer. Parce que à force de consommer le crime, à force de consommer le mal et à force de consommer la violence, on commence à devenir un peu violent nous-mêmes et ça c'est pas vraiment très bon pour la suite de la vie ici. Et donc on se dit au fait que nous devons être au-dessus de nos forces pour ne pas laisser à ce que ce mal arrive à nous changer. Nous sommes nés pacifiques, bien sûr. Nous devons également résoudre tout ce qui nous entoure d'une manière très pacifique et beaucoup réfléchir. Ne pas accepter que certains, par exemple, arrivent à nous pousser à être violents jusqu'au cannibalisme quand même.
Et puis, dans le territoire de Beni, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la chefferie de Bachou. Au cours de cette semaine qui s'achève, 7 personnes ont été sauvagement tuées par des inconnus, parmi lesquels 2 notables et 1 militaire FRDC. La société civile locale qui s'en inquiète appelle l'autorité coutumière à organiser urgemment un dialogue social en vue de comprendre la situation et stopper les tueries. Pour sa part, l'armée dit avoir ouvert des enquêtes et appelle à la collaboration de la population. Les explications avec Sadiki Aboubakar.
Le dernier cas a été enregistré samedi vers 19h heure locale. Il s'agit d'un militaire des FARDC qui a été tué à l'armée blanche par des inconnus à Makungwe dans le groupement Isale Kasongwere. D'après la société civile locale qui le rapporte, l'arme de la victime a été emportée par ses meurtriers. Les habitants de ces villages ont donc paniqué et de nombreux ménages se sont déplacés la même nuit vers des localités voisines, rapporte Roger Wangeve, président de la société civile. Le même samedi, trois habitants de Kavasewa, enlevés lundi dernier par des inconnus, ont été retrouvés morts à Kiviro, dans le parc national de Virunga, très loin du lieu de leur enlèvement. La nuit du mercredi au jeudi de la même semaine, le chef honoraire de la chefferie de Bachou et son épouse ont été exécutés par des mystérieux inconnus. La nuit suivante, c'est un notable du groupement Malio qui a été tué dans des circonstances similaires. Plusieurs sources dans la région évoquent des conflits coutumiers à la base de ces actes criminels. Tout en appelant les services de sécurité à jouer leur rôle, la société civile appelle l'autorité coutumière à organiser urgentement un dialogue social en vue de comprendre la situation et stopper les tueries. Nous n'avons pas réussi à joindre le Mwami Abdul Kalemir III, chef de la chefferie de Bachou, pour sa réaction. Boutembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plus de 50 000 personnes déplacées reçoivent des vivres dans les territoires de Rutshuru. C'est ce que révèle OCHA dans son récent rapport publié ce samedi. Les partenaires humanitaires continuent d'apporter une assistance aux personnes affectées par la crise. Toutefois, cette aide est encore insuffisante en raison de l'ampleur des besoins. OCHA affirme poursuivre son plaidoyer en vue de la mobilisation des ressources en faveur des personnes déplacées victimes. Un compte-rendu de la situation avec Bernadine Diambou.
Les programmes alimentaires mondiaux PAM et son partenaire World Vision ont distribué des vivres à plus de 42 100 personnes déplacées en famille d'accueil à Rutshuru. C'est notamment à Kiwanja et Nyongera. Save the Children a également distribué des vivres à plus de 8 100 personnes vivant dans le centre collectif au stade de Rugabo, à l'école primaire Emera et Rugabo à Rutshuru Centre. Les rapports indiquent que les partenaires humanitaires continuent d'apporter une assistance aux personnes affectées par la crise, en sachant que cette aide est encore insuffisante en raison de l'ampleur de besoins, notamment à Kalengera et Rubare dans les territoires de Rutshuru, où plus de 26 600 personnes déplacées ont besoin d'assistance en vivres. 6 800 autres en ont besoin dans les centres collectifs du territoire de Nyiragongo. Les rapports précisent au passage que plusieurs organisations manquent de ressources financières pour pouvoir répondre aux besoins des déplacés internes. Pour rappel, depuis mars dernier, les affrontements entre l'armée congolaise et les combattants du M23 ont contraint plus de 214 000 personnes en déplacement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo selon la commission mouvement de population. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle dans la province de Lomami, 8 enfants ont été retirés jeudi dernier au sein de nouvelles recrues FRDC qui étaient regroupées à Mweneditu avant leur départ vers le centre de formation de Kamina dans la province de Haut-Lomami. Cette opération de vérification des mineurs au sein de nouvelles recrues a été effectuée par quelques ONG de protection de l'enfant. La division des affaires sociales, sous la supervision du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. Après leur identification, ces enfants ont été retournés dans leurs familles respectives et les PV de constat envoyés au commandement de la région militaire. Esther Ndalafina.
Cette opération de vérification rentre dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement de la RDC depuis 2013 de ne plus recruter ni utiliser les enfants dans les forces armées de sécurité ainsi que de la police. La vérification proprement dite consiste à passer en revue les recrues et séparer de leur rang celles qui sont certifiées enfants. Au cours de l'opération de vérification de jeudi dernier, organisée par trois organisations non gouvernementales, la division des affaires sociales sous la supervision de l'UNICEF, il s'est avéré que sur les 164 nouvelles recrues regroupées à Mweneditu, 8 ont été certifiées enfants, comme le signale ici Georges Kiloi Kamanga, coordonnateur de la clinique Action pour la mobilisation et atténuation de l'impact négatif.
Il y a eu 36 candidats présumés enfants. Nous avons eu cette opportunité de certifier 8 enfants. Ce sont ces enfants-là qui sont retournés dans leur famille.
L'UNICEF indique qu'une activité similaire s'est produite le même jour à Mbujimayi, au cours de laquelle deux autres enfants ont été séparés de 167 recrues vérifiées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Haut-Touélé où des membres du comité de paix et des femmes leaders ont achevé hier samedi à Faradjé une formation de 3 jours pour apprendre à détraumatiser des personnes affectées par les affres de la guerre. un programme financé par USAID qui est exécuté par l'ONG Invisible Children. D'après le chef de ce projet, ce sont des centaines de victimes des rebelles de la LRA dans la région qui ont besoin d'un accompagnement psychosocial afin de leur permettre de reprendre une vie normale. Retrouvons Jean-Claude Loki depuis Faradji.
Pierre Tamaroma est âgé de 58 ans. En 2008, deux de ses enfants ont été kidnappés par des rebelles de la LRA ici à Faradji. Si Mondingba, âgé de 17 ans, avait réussi à s'échapper, Mandango, son cadet, enlevé à l'âge de 12 ans, est encore entre les mains de ses ravisseurs. Un événement douloureux que leur père a de la peine à oublier. Ces genres de formations me permettent d'oublier le passé. Quand je vois d'autres enfants m'aider, je feins comme si l'autre qui est en captivité est lui aussi en train de m'aider. Mais après, je me dis, bon, j'ai perdu un enfant. Marceline Alonso aille deux membres de sa famille qui ont survécu à une attaque de ces rebelles. Elle offre ses services pour aider les personnes qui ont des stress ou des chocs à surmonter. Je travaille dans des organisations des femmes. Un statulier m'a aidé à voir comment assister d'autres personnes à gérer des stress dont elles souffrent, comme j'ai réussi à surmonter mon choc, pour que je sois utile aux autres membres de la communauté affectés par ces problèmes. Selon Christophe Mouroula, chef de ce projet, on retrouve près de 400 victimes des actions de ces hommes armés seulement de la cité de Faradji. Depuis Faradji, Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, la mesure du ministre du Commerce extérieur portant suppression ou rabattement de la redevance logistique terrestre aura comme conséquence la faillite de la Société congolaise des transports et ports et la Société nationale des chemins de fer. Cette alerte de l'intersyndicale de ces deux grandes entreprises de transport multimodal a été faite ce samedi à Kinshasa au cours d'un point de presse conjoint. Pour le président de l'intersyndicat de l'ONATRA, la redevance logistique terrestre étant la principale taxe à même de booster ces deux sociétés, sa suppression ou son rabattement est consécutif à leur fermeture. Les propos d'Arma Osase ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
L'ex-ONATRA, nous sommes concernés. Mais ici, en tant que syndicaliste, c'est toutes les sociétés de l'État cité qui sont concernées. Le premier ministre a été saisi par notre lettre avec nos amis de la SNCC. Parce que ces décisions sont impliquées, toutes les sociétés seront fermées. Mais la conséquence, plus de 35 000 actifs comme retraités seront au chômage. La SNCC, c'est la même chose. Quasiment, le ministre a déclaré les sociétés en faillite, donc la fermeture pure et simple. Et là, nous sollicitons l'intervention du chef de l'État. Moins de 5 mois, l'entreprise sera fermée. Ça, je vous rassure, je suis syndicaliste. Et les travailleurs, ils vont vivre comment? Ils vont toucher les salaires d'où? Ça va créer des morts à cascade. Ça va nous mettre à genoux.
Et puis, dans la province du Bazouélé, le gouverneur de province, Jean-Robert Zanza Bombiti, vient de rendre public son tout premier cabinet ministériel. Il est composé de 10 ministres provinciaux, dont 2 femmes. La mission lui assignée est notamment d'assainir les finances publiques provinciales en vue de réduire la pauvreté en fournissant les services publics efficaces. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'arrêté gouvernemental nommant les membres de ce cabinet a été publié vendredi dernier. Le 4e gouvernement provincial du Bas-Ouélé compte 10 ministres, dont 2 femmes. Il s'agit de Ruth Badouli, ancienne gouverneure intérimaire de cette entité. Elle est en charge de l'agriculture, pêche, élevage, développement, genre, famille et enfants. Une autre dame dans ce gouvernement, c'est Marie Lekaboussia. Elle va s'occuper des hydrocarbures, de l'énergie et ressources hydrauliques. Le gouverneur Jean-Robert Zanza a aussi repêché 3 anciens ministres du gouvernement sortant. Hormis Ruth Badouli, il a rappelé Paulin Poussou et Siméon Okozanga. Ils se sont vus confier respectivement les ministères de la fonction publique ainsi que des infrastructures et travaux publics. Parmi les nouveaux venus, il faut citer entre autres le professeur Ursule Lelo Dima Kungu. Ce professeur de droit à l'université de Kisangani va s'occuper de l'environnement, mines, communication et presse. Il est également le porte-parole du gouvernement provincial. La publication de ce gouvernement est intervenue au terme d'environ 5 jours des consultations populaires. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, le français Jean-Pierre Lacroix, est attendu au Mali à partir de ce dimanche 24 juillet, alors que les relations avec la junte se sont fortement dégradées ces dernières semaines. Durant son séjour de 5 jours, Jean-Pierre Lacroix évaluera la prolongation du mandat de la mission onusienne avec les autorités de la transition. Et puis la porte-parole de la diplomatie russe a affirmé dimanche que des missiles russes avaient détruit la veille des infrastructures militaires dans le port d'Odessa, vital pour l'exportation des céréales ukrainiennes. C'est en réponse à une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmant que ces frappes avaient détruit la possibilité d'un dialogue ou d'une entente avec Moscou.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le député élu du territoire du Diofa dans les Kwilu, Dédé Moupassa, qui déplore la détérioration des conditions de vie de la population de cette entité. Il relève dans son diagnostic le mauvais état des routes, les conséquences de la pollution de la rivière Kassai dans le vécu quotidien de la population. Dédé Moupassa cite également en passant une peste qui a décimé beaucoup de bétail en paralysant l'activité des éleveurs. Les conditions infrahumaines dans certains internats et les problèmes administratifs. Dédé Moupassa a fait ce constat lors de sa récente descente dans le cadre des vacances parlementaires. Il propose en retour quelques pistes des solutions. Il s'entretient ici avec Jean-Marc Matwaki. Suivez.
Dédé Moupassa Lukobo, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Cap.
Alors, vous avez passé un long moment à Idiofa, dans la province du Kwilu, dans le cadre des vacances parlementaires. Qu'est-ce qu'on retient de ces séjours que vous avez passés pendant plus de mois à Idiofa?
Quand on rencontre une population qui fait partie de votre famille, le malheur c'est que quand on va en personnalité d'État, les attentes sont tellement qu'on ne sait pas répondre directement. Voir aussi les conditions dans lesquelles ils sont encore jusqu'au jour aujourd'hui, c'est très pénible, donc c'est ça la peine. Mais d'une manière générale, il fallait bien, parce que la loi nous l'exige d'aller à la rencontre de nos populations, de nos bases, pourquoi pas, et les écouter, expliquer pourquoi les choses ne marchent pas. Et c'est la démarche dans laquelle que nous nous sommes mis à expliquer, et ils sont compréhensifs, ils ont compris, mais ils sont exigeants, excessivement exigeants.
Mais ce qui ressort de cette descente, c'est que les besoins sont énormes. La population d'Idiofa fait face à d'innombrables difficultés des vies dans divers domaines. Vous avez été en contact avec cette population. Qu'est-ce qu'on retient?
D'abord, il y a un problème de la gouvernance de notre territoire. C'est déjà un problème, la gouvernance de notre territoire. On ne sent pas la présence de l'État. On ne sent pas la coordination des entités, des différentes entités. Nous sommes dans un territoire où il y a 5 pratiquement communes qui ont été désignées par l'ordonnance présidentielle il y a 2, 3, 4 ans, je pense. Il y a des bourgmestres en tête sans bâtiment. Ils ne savent pas quel sens est voué, à qui ils doivent répondre comme autorité, et ils sont là. Alors, mais les routes des dessertes agricoles, les routes qui pouvaient passer un camion, aujourd'hui même un vélo ne passe plus sur cette route-là. Et sur le plan sanitaire, nous avons été victimes de la pollution de la rivière Kassai il y a une année ou 2 ans, mais ça a porté des effets néfastes. Il y a des populations qui ont été atteintes d'un certain nombre de maladies. Les recherches jusqu'à aujourd'hui ne disent pas c'était quoi la base et pourquoi ces maladies-là. Il y a des mamans qui ont des problèmes maintenant d'accouchement, les problèmes gynécologiques et tout ça, qu'on s'est réduit parce qu'ils se sont baignés pendant que l'eau était polluée, le temps qu'on puisse les interdire. Et cette pollution a décimé même des petits poissons, il n'y en a plus. C'est comme si les malheurs ne venaient toujours pas seuls, comme on dit. Toutes nos bêtes, des vaches, des élevages sont partis avec la peste. Le vaccin qu'on a amené là-bas, c'est comme si ça a pouillé encore, que les vaches puissent se perdre comme ça. On a disséminé, perdu beaucoup de vaches. Il y a des crânes entiers qui ont perdu 200, 300 vaches. Et aujourd'hui, ça pose des problèmes énormes là-bas. Il faut que l'État puisse intervenir, le gouvernement puisse intervenir pour aider cette économie des riverains à remonter un peu leurs tâches, parce que pour nous, les vaches, ce sont des réserves économiques.
Il y a l'état des hôpitaux et aussi de certaines écoles ou des internats.
Oui, mais là, j'ai pleuré par 2 fois, parce que les internats de réputation qui a sorti des professeurs d'université aujourd'hui, des responsables et des ministres, mais il faut aller voir cet internat-là. J'arrive à Moncala, dans les dortoirs, les enfants dorment en mer de sol. Au sol, là, les pavements agloutis, mais ils sont là, ils mettent des nattes et ils dorment sur ces nattes-là. Donc, ça me fait très très mal. C'est pas qui a créé les internats et qui a charge de gérer les internats.
Face à ces diagnostics, classique de Demopassa, on va dire triste et sombre. Quelles sont les pistes et les solutions que vous en préconisez justement?
Oui, d'abord, le bonus du chef de l'État par rapport à ce projet gouvernemental de 145 territoires est la bienvenue. Mais nous n'allons pas jeter tous nos regards que sur cela. Nous devons travailler à côté. L'Office des routes existe. C'est pour un maintien, construction des routes. Et le FONER est là, c'est les fonds des Congolais qui payent. Et ces fonds-là doivent être distribués selon les besoins que la population ressente. Moi, je ne sais pas, j'ai vu les statistiques de combien ils ont mis, combien de fonds FONER a mis dans le Kwilu, mais c'est regrettable. Est-ce qu'il y a une province considérée ou pas? Et ça, nous les députés, nous devons nous réveiller. Pour que? Parce que l'économie n'est pas que minière. Ça se complète avec l'économie du manioc, ou du riz, ou de passage, ou de transit. Parce que ce sont ces routes-là qui permettent aux gens de quitter Kinshasa avec des produits manufacturés pour atteindre le De Kasaï. C'est par là qu'on passe. Mais aujourd'hui, quand ces routes-là ne sont pas bonnes, ça fait souffrir les deux côtés, les deux bords, est et ouest. Donc il est nécessaire de tenir compte de cet équilibre. Et la question de péréquation définie dans la Constitution serait une bonne solution jusque-là, mais bon, comme ça ne marche pas encore dans des solutions, je veux qu'on puisse redynamiser l'Office des routes.
Dédé Mopassa Lokobo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Voilà, fin de cette édition mise en onde par Jean-Claude Siala sous la supervision d'Alain Irung et la coordination de Pierrot et la Mégie. Merci de nous avoir suivis.